Turkey, there is two important men.
En Turquie, il y a eu deux hommes importants. Il y a eu Turgut Özal. Et le second, c'est Monsieur Erdogan.
Je le soutiens parce qu'il soutient l'islam. Ici, c'est un pays islamique. Nous sommes musulmans et avant qu'il soit là, on n'était pas très à l'aise en tant que musulmans.
Depuis le début de la République, notre histoire a été écrite par d'autres gens, issus des puissances impérialistes occidentales. Nous, on essaie de réécrire cette histoire sous une lumière plus pro-ottomane.
Double scrutin anticipé ce dimanche en Turquie. Recep Tayyip Erdogan a souhaité avancer de 18 mois les élections législatives et présidentielles. En prenant l'opposition par surprise, le chef de l'État croyait s'assurer une victoire confortable et devenir, conformément à la réforme constitutionnelle adoptée l'an dernier, un hyper-président concentrant tous les pouvoirs. Si les élections lui sont favorables, Erdogan, qui dirige déjà le pays depuis 15 ans, sera tranquille jusqu'en 2023. Mais aujourd'hui, rien ne semble acquis. Selon les derniers sondages, un deuxième tour pourrait être nécessaire à la présidentielle. Et si le HDP, pro-kurde, parvenait à dépasser les 10% aux législatives, l'AKP, le parti d'Erdogan, n'aurait plus la majorité absolue à la Chambre. Malgré l'état d'urgence, en vigueur depuis la tentative de coup d'État de juillet 2016, malgré les innombrables arrestations d'opposants, un candidat fait même campagne depuis sa prison, malgré le contrôle exercé sur les médias, l'opposition a un petit espoir, cette fois, de faire trembler la forteresse. Elle tente d'ailleurs de prévenir les fraudes électorales en déployant avec le soutien d'ONG plus de 500 000 observateurs dans les bureaux de vote du pays. Le président a senti le vent tourner et il a tenté ces dernières semaines de galvaniser à nouveau les foules, assurant que le rendez-vous électoral de dimanche changerait la Turquie pour le siècle à venir. Erdogan promet la prospérité et met en avant ses projets spectaculaires comme le troisième pont au-dessus du Bosphore ou la titanesque mosquée de Şamlıca. Il flatte l'orgueil national des Turcs et leur assure qu'avec lui, la Turquie occupera une place de puissance mondiale sur la scène internationale. Erdogan, le retour d'un sultan, c'est un magazine signé Eric Biegala. Invité de ce magazine, Ahmet İnsel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et politologue, vous avez enseigné à l'université de Galatasaray, également à Paris. Vous êtes actuellement chroniqueur à Cumhuriyet, journal turc indépendant, ce qui est devenu rare. Je cite le titre de l'un de vos livres, « La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire », ouvrage paru en 2015 aux éditions La Découverte. Alors avant de vous faire intervenir, je vous invite à écouter un premier reportage d'Eric Biegala. Eric, à l'approche des élections en Turquie, vous avez cherché à comprendre ce qu'était l'erdoganisme, si tant est que ça existe.
Si tant est que ça existe, en effet. La première des choses qu'on peut dire, c'est que on peut qualifier Recep Tayyip Erdogan de beaucoup de choses, de populiste par exemple, mais il n'en demeure pas moins qu'il est aussi, et il demeure absolument populaire. Régulièrement, depuis 2002, depuis 2003, son parti, ou lui-même, réunit à peu près 40 à 45%, voire 50%, un peu plus de 50% des suffrages. Et c'est aussi un véritable homme du peuple. Il est vraiment issu de milieux populaires. Il lui en utilise la gouaille, ses références vont du football à l'Empire Ottoman, c'est assez varié. Et surtout, il est toujours, et il demeure toujours, même maintenant, dans son rôle d'hyper-président, extrêmement, il veut rester en contact avec ce qu'il appelle le peuple, raison pour laquelle il est systématiquement toujours en meeting. En dehors des périodes électorales, là on est en pleine période électorale, il y a au moins un meeting public par semaine. Et là, en période électorale, c'est plusieurs, c'est deux, c'est trois, c'est quatre, dans toutes les villes d'Anatolie.
Et donc justement, vous êtes allé assister à l'un de ces meetings en Anatolie centrale.
Eskişehir, ville de 825 000 habitants environ, en Anatolie centrale, entre Ankara et Istanbul. C'est ici que Recep Tayyip Erdogan, aujourd'hui, fait son discours, comme tous les jours. Il a droit à un ou deux, voire trois ou quatre discours publics dans chacune des villes d'Anatolie, avec une ambiance un peu particulière, où toutes les personnes qui viennent à ce meeting sont fouillées au corps. Il y a des policiers absolument partout, il y a des militaires sur les toits avec leurs fusils à lunettes. C'est une drôle d'ambiance. Un fouille au corps donc de tout le monde dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées pour les femmes, à peu près autant pour les hommes. Et on jette tout ce qui pourrait constituer un projectile,
moindre bâton de rouge à lèvres est mis au rebut, les stylos également. Alors, il n'y a rien qui ne passe le barrage, hein. On est juste devant la fouille des femmes. Là, il y a un petit gamin qui vient de se faire enlever le bouchon de sa bouteille d'eau. Là, une dame devant nous vient de se faire retirer son test de grossesse qui n'avait pas l'air de plaire à la police, je ne sais pas pourquoi. Devant nous, un jeune, il doit avoir 17-18 ans, vient de se faire refuser l'entrée. Apparemment à cause de son t-shirt, il faut dire qu'il était un peu provocateur puisqu'il avait tout simplement marqué en anglais, mais c'est quand même parfaitement compréhensible. Fuck you, you fucking fuck. On peut imaginer que c'était peut-être à l'adresse du président Erdogan.
Le président se fait un peu attendre ce jour-là à Eskişehir. Ce sera l'occasion de demander à ceux qui sont venus l'écouter, ses supporters, ses électeurs en fait, de nous dire ce qu'ils apprécient chez l'homme Erdogan. Il s'appelle Sevcan, Hamide, Maynoz ou Mehmet, ils sont mères de famille, retraités ou jeunes. Ils votent AKP, voteront Erdogan le 24 juin de toute façon.
Moi, je le suivrai, où qu'il aille. Je le soutiens parce qu'il soutient l'islam. Il travaille pour l'islam. Et c'est pour ça qu'on croit en lui. Parce qu'ici, c'est un pays islamique. Nous sommes musulmans et avant qu'il soit là, on n'était pas très à l'aise en tant que musulmans. Pour moi, il est très important que notre leader puisse embrasser tout le monde, pas seulement les gens pieux d'ailleurs. Pour moi, c'est le plus important, qu'il puisse embrasser tout le monde dans le pays. Mais c'est vrai que nous, les gens pieux, on se sent beaucoup plus à notre aise depuis qu'il est au pouvoir.
Erdogan est important parce qu'avant lui, on n'était pas très à l'aise dans ce pays, car le voile était interdit. Grâce à lui, on a pu travailler voilé n'importe où. Et moi qui suis handicapée, maintenant tout est gratuit pour moi. Je me sens très à l'aise sous sa présidence. Il protège les femmes voilées et les autres aussi.
What about you?
Merhaba.
Hastaneler biz kurdu, devletimiz, Türkiye'miz.
Avant, quand on allait à l'hôpital, il fallait attendre pendant des heures, il y avait la queue.
Ama şöyle bir şey, her an için kazandığı için.
Maintenant, tout y est gratuit. Le système de santé est beaucoup mieux. Parfait même.
Vatanımız sağ olsun.
Madam.
Merhaba. Gelmiş geçmiş en büyük lider.
Erdogan est le meilleur président de l'histoire de la Turquie. Je l'aime beaucoup. Moi, je suis retraitée et j'ai une voiture. Je suis propriétaire de ma maison et on a des aides d'État. Et puis, on est mieux considéré comme femme depuis qu'il est au pouvoir. Avant, quand on allait à l'hôpital, les docteurs ne nous parlaient pas. Ils ne nous regardaient même pas. Aujourd'hui, ils nous écoutent, nous demandent ce dont on souffre. On nous respecte davantage, grâce à Erdogan.
Pour moi, Erdogan, ça veut dire beaucoup. Il a fait plein de choses pour la Turquie. Moi, j'étais travailleur indépendant. Aujourd'hui, je suis retraité et j'ai pu m'acheter une voiture, un appartement. Avant, on n'avait même pas de quoi se payer l'eau potable. Erdogan, c'est un vrai succès. Avant, les politiciens n'avaient jamais rien réussi. Et lui, il a amené la Turquie à un très haut niveau.
Dans le discours de 40 minutes qu'il prononce ce jour-là à Eskişehir, Recep Tayyip Erdogan lance bien quelques piques politiques en direction de l'opposition. Mais ce qu'il est surtout venu vendre aux gens d'Eskişehir, ce sont ses réalisations, des réalisations passées et à venir. On a fait le train à grande vitesse pour Eskişehir et on fera d'autres lignes qui permettront de descendre jusqu'à la Méditerranée, promet-il. On a un gigantesque projet pour Eskişehir. Plus d'une vingtaine de canaux d'adduction d'eau sont en construction pour l'irrigation agricole. Dernier projet annoncé par le président ce jour-là, la construction à Eskişehir d'un nouveau campus, un grand centre éducatif à destination des étudiants étrangers venus du monde turcophone, c'est-à-dire d'Asie centrale. La popularité d'Erdogan, en effet, qui est réelle, ne repose pas tant sur la défense de valeurs religieuses, comme la provenance islamiste de son parti pourrait le laisser supposer, mais bien plus sur les réalisations et la croissance économique. D'ailleurs, ce sont là les principaux arguments de campagne de l'AKP, le parti du président. À Istanbul, dans le quartier de Güngören, Emrah Demirci et sa dizaine de camarades animent le pavillon de campagne de l'AKP, installé sur un carrefour très passant. Emrah Demirci est le président de la branche jeunesse de l'AKP.
Notre premier argument de campagne, celui que l'on met toujours en avant, c'est ce que l'AKP a réalisé durant les 16 dernières années. Et c'est la garantie de ce que nous pourrons faire à l'avenir. On commence toujours avec ça. Et le gros point fort de l'action de l'AKP, c'est l'économie. Les gens ont davantage de revenus aujourd'hui qu'hier. Le second point fort, c'est la santé. Il y a eu beaucoup de réformes dans le champ de la santé. Et pour les gens qui ont plus de 35 ans, c'est particulièrement évident pour eux la différence qui existe entre le système de santé d'il y a 16 ans et aujourd'hui. Et puis il y a l'emploi qui est notre dernier point fort. Je prends mon propre exemple. J'ai 30 ans et j'ai un bon niveau de vie. Si je le compare au niveau de vie que l'on avait il y a 15 ans, quand j'étais adolescent, c'est évident. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour tout le monde. Dans ma famille, durant les 15 dernières années, on a travaillé dur, mais ça a payé. On a vu des résultats concrets.
Cette flambée de l'économie a en particulier profité à ces entreprises moyennes, devenues parfois de grands conglomérats, et qui s'étaient regroupées avant l'arrivée au pouvoir d'Erdogan au sein de la MUSIAD, l'association patronale idéologiquement proche de l'AKP, le patronat islamiste si l'on veut. Zeki Güvercin est l'un des membres du bureau directeur de la MUSIAD.
En Turquie, il y a eu deux hommes importants dans l'histoire récente. Il y a eu Turgut Özal, le père du libéralisme et de l'ouverture de la Turquie aux marchés internationaux. Et le second, c'est M. Erdogan. Parce qu'avant Erdogan, la Turquie, économiquement, n'était pas vraiment développée, en fait. Nous n'avions pas d'aéroport, nous n'avions pas de chemin de fer. Nous n'avions pas de vrais industriels en Turquie centrale. Il n'y avait que les hommes d'affaires d'Istanbul qui avaient leur lobby spécifique. Mais la richesse n'était pas distribuée dans tout le pays, ni auprès de tous. Et si on veut parler d'économie façon Erdogan, avant Erdogan, seuls les riches pouvaient prendre l'avion, par exemple. C'était simple de prendre un billet, mais le prix d'un billet d'avion, c'était l'équivalent de 2 à 3 mois du salaire minimum. Aujourd'hui, comme en Europe, pour 20 dollars, vous pouvez faire Istanbul-Ankara, ou même aller à l'étranger. C'est tout ça qu'on peut appeler la manière Erdogan en économie. Et s'il a remporté les 10 dernières élections en Turquie, c'est bien grâce à ça. Les exportateurs aussi sont particulièrement soutenus quand ils tentent de développer de nouveaux marchés.
Vous avez des chiffres concernant les exportations du pays ?
Oui, avant Erdogan, on exportait pour 10 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, c'est 150 milliards par an. Et notre premier client, c'est l'Europe, où on exporte surtout des produits industriels. Les produits agricoles ne représentent plus que 20% de nos exportations.
Qu'est-ce qui explique cette multiplication par 10 des exportations turques ?
D'abord, on a bénéficié de davantage de démocratie. Parce qu'il y a 15 ans, en Turquie, il n'y avait pas de démocratie. Davantage d'aide aux exportateurs, aux producteurs. En Turquie, on a aujourd'hui pas mal d'organismes d'État qui aident les entrepreneurs, financièrement, par du conseil, pour se développer à l'international. Par exemple, quand une société turque participe en France au Salon international de l'alimentation, ou à un autre événement du même type, l'État turc prend en charge 50% du coût de la participation. Et quand vous allez dans les grands salons internationaux, vous noterez toujours une importante présence des entreprises turques. Grâce à ça, il y a de véritables aides de l'État à l'export.
Donc des aides conséquentes à l'exportation. Mais qu'en est-il du marché intérieur? Quels sont les secteurs qui se sont développés en 15 ans? Le bâtiment, par exemple. Le bâtiment a toujours été très important dans le pays.
Le secteur du bâtiment s'est beaucoup développé, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur. La Turquie est le pays qui construit le plus à l'étranger après la Chine. Quant au marché intérieur, vous pouvez voir que les villes se développent effectivement en termes de bâtiments. Mais parallèlement, on voit aussi de grandes infrastructures, comme le troisième aéroport d'Istanbul. Normalement, il aurait dû être construit en 15 ans. Il sera terminé en 3 ans. Et ce sera le second ou troisième plus grand aéroport du monde. Nous avons le Marmaray, le nouveau tunnel ferroviaire sous-marin qui passe sous le Bosphore. Également le troisième pont qui lui passe par-dessus le Bosphore. Tout ça a été fait en 5 ans. Aujourd'hui, on vient juste d'avoir les chiffres de la croissance annuelle. Elle est de 7,4%. Et là-dessus, 6,7% sont le résultat de ces investissements majeurs. Avant Erdogan, 90% des investissements étaient le fait d'investisseurs étrangers. Ce n'est plus le cas. Le troisième aéroport est 100% turc. Marmaray est turc à 70%.
Alors, dans ce premier reportage d'Eric Begala, on a une vision assez idyllique de l'économie turque. Je pense que vous allez beaucoup nuancer cet état des lieux à Metinsel. Mais il y a bien eu des réformes libérales au sens économique et politique du terme, en tout cas dans les premières années.
D'abord, il faut reconnaître effectivement que dans les années 2000, quand le parti de Tayyip Erdogan, le parti de justice et développement, est arrivé au pouvoir en novembre 2002, à l'issue des élections anticipées aussi, à cette époque, l'économie turque sortait d'une crise très très très grave. La crise économique de 2001 est une très grave crise, en plus une crise simplement dont les origines étaient intérieure à la Turquie. C'était pas une crise mondiale dont les répercussions venaient en Turquie. Et à l'issue de cette crise, il y a eu un accord avec le Fonds monétaire international, un vrai programme de stabilisation, de consolidation du secteur financier, indépendance de la Banque centrale. Tout ça, ça a été fait. Et Tayyip Erdogan est arrivé au pouvoir quand la Turquie commençait à vraiment sortir de cette crise. Et il a continué, son gouvernement a continué à peu près pendant, jusqu'à l'an 2010-2011, ce programme, grosso modo, en profitant d'une conjoncture internationale très favorable, d'une liquidité internationale abondante et, un troisième facteur qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, le feu vert de l'Union européenne pour l'adhésion de la Turquie qui, tout à l'heure, le représentant de Mussiat parlait des investisseurs étrangers. Avant 2001, il y avait à peu près à 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en Turquie, avec le feu vert de l'Union européenne, avant même le commencement des négociations, c'est-à-dire à partir de 2001, subitement, on a passé à 10, 15, 20 milliards d'investissements directs étrangers par an en Turquie. Donc, le facteur européen était un élément très important de stabilisation. Il y a eu, effectivement, entre 2002 et 2008, une multiplication par 3 du revenu par tête d'habitant en Turquie. Mais depuis 2008, nous sommes au même niveau.
Alors, on entendait des éloges du système de santé. On peut considérer que là, mettre au crédit d'Erdogan.
Alors, le système de santé et en général le système de sécurité sociale. Avant, le système de sécurité sociale en Turquie était compartimenté. Les fonctionnaires avaient un système de sécurité sociale à part, les salariés du privé à part, les indépendants à part, et évidemment, la qualité de couverture de santé fait était très bonne pour les fonctionnaires, moins bon pour les salariés et encore moins bon pour les indépendants. Il a unifié le système de sécurité sociale. Il a unifié les CHU et les hôpitaux de la sécurité sociale étaient distincts. Il les a unifiés l'ensemble de services publics de santé et évidemment, comme disait tout à l'heure une des femmes interviewées à Eskişehir, il y a eu un changement très important pour les classes défavorisées d'accès aux soins publics. Ceux qui payent, évidemment, ils avaient toujours la possibilité. Ceci est très important. Il a amené une sorte de démocratisation de services publics de santé, une démocratisation qui était accompagnée aussi d'une politique de soutien d'aide sociale aux défavorisés. Alors, une partie de la gauche, une partie de la social-démocratie critique toujours ces politiques d'aide sociale. Maintenant, ils ont arrêté de le faire. Mais dans les années 2000, ils critiquaient beaucoup ces politiques d'aide sociale en disant, oui, en donnant de l'argent, on achète la voix les votes des pauvres. Oui, mais les pauvres, ils en avaient besoin de ces... Et si vous dites ça, et puis les pauvres, ils perçoivent que si la social-démocratie vient au pouvoir, ils vont supprimer les aides. Donc, du coup, ils s'accrochaient encore plus au soutien de Tayyip Erdogan. C'était un cercle vicieux pour la gauche ou pour la social-démocratie. Ils ont totalement abandonné. Par exemple, j'ai écouté il y a une semaine le candidat du Parti social-démocrate. Il cite les 12 ou 13 aides dont bénéficient les différentes familles défavorisées. Il cite un par un ces aides en disant « Je vous promets, je ne les toucherai pas et je les augmenterai de 100 livres turcs immédiatement après arriver au pouvoir. » Donc, voyez bien que c'est quelque chose qui a beaucoup joué en faveur de Tayyip Erdogan. Mais ces choses-là, ces aides, l'augmentation du niveau de vie général, etc., évidemment, depuis à peu près 4-5 ans, piétinent.
Et alors, vous disiez que la dynamique s'est arrêtée. Est-ce qu'il y a un lien direct avec l'arrêt du processus vers l'adhésion à l'Union européenne ?
Alors, il y a eu déjà un premier arrêt, la crise de 2008 au niveau mondial. Mm-hmm. La Turquie a connu une crise, un choc en 2009. Il y a eu une contraction du PIB de 6% à peu près, mais immédiatement après, l'économie turque a récupéré. Mais depuis cette date-là, en termes de niveau de vie moyen de la population, ça s'arrête. Évidemment, deuxième facteur, à partir de 2008-2009, et plus particulièrement à partir de 2010, les négociations en vue d'adhésion avec l'Union européenne commencent à se ralentir et être quasiment suspendues officieusement depuis quelques années. Les investissements directs étrangers commencent à ralentir. Au niveau mondial, il y a aussi des frémissements, une diminution, une raréfaction des liquidités internationales. Et puis, il y a un autre facteur que malheureusement, évidemment, les supporters de Tayyip Erdogan ne reconnaîtront pas. Tayyip Erdogan, qui apparaissait dans les années 2000 comme le premier facteur de stabilité économique en Turquie, à partir de 2013-2014, devient un facteur d'instabilité. Un facteur d'imprévisibilité et d'instabilité, la suspension de l'état de droit, la mise en place de l'état d'urgence, les saisies, les confiscations des biens par décret administratif sur des opposants, l'internement des députés, tout ceci crée évidemment un climat relativement imprévisible où l'état de droit étant suspendu, la possibilité pour l'administration de faire des abus de pouvoir devient possible.
Donc pour les investisseurs étrangers.
Étrangers, et même pour les investisseurs turcs. Et les investisseurs étrangers encore plus fragiles. Évidemment, on a vu ces derniers temps, par exemple, Tayyip Erdogan faire des propositions vraiment à compte courant même de ses propres intérêts. Et il a une obstination sur les taux d'intérêt pour des raisons à la fois culturelles, croyances, mais aussi peut-être pour des politiques économiques de soutien aux bâtiments et travaux publics, puisque les taux d'intérêt s'y augmentaient, le secteur du bâtiment sera le premier touché. Et c'est le secteur du bâtiment où se trouvent le plus les supporters économiques de Tayyip Erdogan, des entrepreneurs de Tayyip Erdogan, sont surtout concentrés dans le secteur du bâtiment. Et Tayyip Erdogan, dans une situation où l'économie turque est fragile, la livre turque se déprécie, a empêché la Banque centrale de réagir en augmentant les taux d'intérêt, de freiner, de stabiliser la livre turque. Et depuis janvier dernier, la livre turque s'est dépréciée de 18% vis-à-vis du dollar. Et donc, du coup, les personnes qui sont dépendantes des importations, la Turquie importe plus que ce qu'elle exporte, les importations explosent et du coup, l'inflation a atteint plus de 13-14% maintenant. Et les taux d'intérêt, malgré ça, malgré Tayyip Erdoğan, les taux d'intérêt ont atteint 16%. Donc du coup, l'économie turque est, selon les experts internationaux, est à deux doigts d'une déflagration.
Alors, vous parliez du secteur du bâtiment. Est-ce que l'économie est tournée en faveur des réseaux pour
Oui, il y a du clientélisme. L'économie turque, notamment le secteur du bâtiment, particulièrement propice à cela, puisque ce sont la plupart du temps les travaux publics, comme l'aéroport, par exemple, est donné à trois grands groupes industriels très proches de Tayyip Erdoğan. Les constructions, les centrales nucléaires qui est fait avec les Russes et aussi donné aux mêmes personnes, aux mêmes entreprises qui a construit le pont et construit l'aéroport actuellement. Effectivement, il y a un clientélisme un peu ahurissant en Turquie. Et ce clientélisme est à peu près justifié, officiellement non, mais officieusement est justifié par les propos tenus justement par le représentant de Müsiyat. C'est-à-dire, jusqu'à il y a 10 ans, 15 ans, ceux qui gagnaient, ceux qui étaient les privilégiés, c'était la bourgeoisie occidentalisée d'Istanbul. Maintenant, c'est à notre tour, c'est-à-dire les bourgeoisies montantes de la périphérie que Tayyip Erdoğan et AKP a amené au centre. Ce qui n'est pas faux. Ce qui était vraiment le cas. Mais maintenant, cette bourgeoisie est devenue vraiment une bourgeoisie très dépendante, où ces industriels, ces hommes d'affaires sont devenus très très dépendantes des marchés publics et à la limite même de la régularité qu'on peut attendre, d'un minimum de régularité et de transparence qu'on peut attendre des marchés publics. Tayyip Erdoğan, par exemple, a refusé d'ouvrir en 2010, alors que l'Union européenne proposait, une des rares chapitres que l'Union européenne proposait, c'était le chapitre sur les marchés publics, justement. Et Tayyip Erdoğan a refusé d'ouvrir le chapitre sur les marchés publics en disant « si je ne deviens pas membre de l'Union européenne, puisque vous me promettez pas, vous me donnez pas l'assurance, est-ce que je vais me suicider, moi, mon parti, en mettant en place une transparence des marchés publics ? Je crois que ça dit tout.
On peut peut-être dire un mot du chômage aussi, il est autour de 12%, c'est ça ?
Le chômage est autour de 12%, et si on prend d'autres interprétations du chômage, c'est-à-dire si vous incorporez dans la définition du chômage les personnes découragées, ça atteint encore un peu plus. Le chômage des jeunes atteint plutôt 20%. Le taux de chômage est devenu vraiment très élevé, mais il faut reconnaître que le taux de chômage de 10 à 12% n'est pas exception non plus en Europe. Maintenant, malheureusement, c'est devenu un peu le taux de chômage, je dirais pas normal, mais courant. Le taux de chômage est élevé, mais surtout, il y a un facteur qui est très important dont la Turquie souffre. Le taux de participation des femmes au travail est faible. Il a augmenté depuis 10 ans, mais ça reste encore relativement faible.
C'est culturel ?
C'est culturel, les hommes ne veulent pas que leurs femmes travaillent, et puis les conditions, nous avons parlé tout à l'heure de politique sociale, mais par contre, pour la prise en charge des enfants, des femmes qui travaillent, il y a très peu de choses. Et on est obligé d'attendre jusqu'à l'école primaire pour qu'il y ait une prise en charge. Et par conséquent, les femmes, dès qu'ils ont un enfant, se retirent du marché du travail. Les hommes, la plupart du temps, n'aiment pas que leurs femmes travaillent pour des raisons culturelles. Et par conséquent, il y a c'est pas un chômage en termes de définition économique du terme, mais la faible participation limite aussi la croissance économique et diminue beaucoup les capacités d'épargne des ménages.
Et là, on dit que Erdoğan a avancé les élections parce que justement l'économie fait encore illusion maintenant, mais pourrait ne plus le faire un peu plus tard. C'est une réalité.
C'est un des facteurs. Disons que depuis à peu près 6 mois, on commençait de plus en plus à parler d'une possibilité des élections anticipées parce que l'économie turque commençait à s'essouffler. C'est vrai que l'économie turque a connu en 2017, selon les calculs de l'Institut de statistique turc, 7,4% de croissance, qui est une croissance croissance forte, mais une croissance totalement tirée par la consommation intérieure. C'est pas une croissance et une croissance totalement soutenue par les dépenses publiques. Donc c'est pas une croissance soutenable à long terme. Et donc on voyait bien que il y avait une perspective de ralentissement en 2018. Plus les échéances de plus en plus importantes de l'endettement extérieur des entreprises privées, les endettements en dollars, en devises des entreprises privées, c'est 240 milliards de dollars, les entreprises privées sont endettées en devises, pas forcément en étranger, mais aux banques turques particulièrement, et arrivé à échéance de ces endettements, commençait à faire craindre beaucoup les investisseurs internationaux. Et du coup, les agences de notation avaient commencé à réduire la notation de la Turquie, ce qui devenait aussi un handicap pour le financement. Alors, cette raison-là a poussé Tayyip Erdogan à anticiper les élections. Mais il y a un deuxième facteur qui a accéléré encore plus ces anticipations, c'est que le calendrier électoral de 2019 commençait à faire craindre à Tayyip Erdogan d'avoir un premier tour un peu défavorable en mars 2019 avec les élections municipales. Et les élections municipales, en suivant les résultats du référendum et des anciennes élections, le parti de Tayyip Erdogan risquait de perdre les deux grandes villes symboliques de la Turquie, Istanbul et Ankara. İzmir est déjà dans le contrôle du Parti social-démocrate. Et donc, du coup, Tayyip Erdogan a bien compris que si les situations économiques se dégradent, si la tendance des électeurs à Istanbul et Ankara, comme a montré le résultat du référendum, est défavorable à la KP, les élections municipales devenaient un premier tour avant les élections législatives. Donc, du coup, il a voulu inverser le calendrier électoral.
D'accord. Alors, je reviens vers vous, Eric Biegela, pour essayer de cerner encore un peu mieux Recep Tayyip Erdogan. Vous allez nous parler maintenant de son néo-ottomanisme, puisqu'il célèbre le passé ottoman. On retrouve un peu partout des rappels à la gloire de l'Empire, des bâtiments, des films ou encore des musées. On repart donc à Istanbul avec vous, Eric, dans une sorte de musée commémoratif.
Alors là, nous sommes au cœur du panorama de la conquête d'Istanbul en 1453 par les troupes du sultan Mehmed II, de ce qui s'appelait pas encore Istanbul, mais Constantinople. Représentation dans un style réaliste, on va dire, un peu kitsch quand même, très kitsch même, de l'entrée dans Constantinople par les troupes ottomanes. Sorte de son et lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière en fait, une immense peinture à 360 degrés et quelques représentations des canons qui ont fini par détruire le mur d'enceinte permettant aux Ottomans de rentrer dans la ville. Au-delà de ce panorama, les références au passé ottoman abondent dans la nouvelle Turquie d'Erdogan. Aux abords des meetings de campagne, comme des kiosques du parti, on trouve volontiers ces drapeaux ottomans, flanqués des trois croissants, les armes du sultan. On vend des écharpes à l'effigie d'Abdulhamid II, l'un des derniers sultans. Le fez, lui-même, est revenu à la mode. La télévision d'État diffuse en ce moment même la troisième saison d'une série consacrée au sultan Abdulhamid. Une série qu'Erdogan lui-même suit, paraît-il, avec délectation. Une sorte de néo-ottomanisme est en effet à la mode en Turquie. Un néo-ottomanisme qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'était l'Empire ottoman, explique l'historien Eden Eldem, qui, quand il ne prononce pas ses conférences sur l'Empire au Collège de France à Paris, enseigne ici, à l'Université du Bosphore.
Il y a un ottomanisme, il y a un revival ottoman, ou c'est une mode?
Depuis un moment, mais depuis les années 80, depuis Özal.
Turgut Özal, qui est le premier, qui prend la suite du coup d'État, de la junte militaire.
Et c'est lui, parce qu'il avait... il était obsédé par cette idée de ce qu'il appelait la synthèse turco-islamique. Et quoi de plus synthétique turco-islamisant que l'Empire ottoman, puisque c'est un empire que l'on pense turc et que l'on pense islamique, et que par conséquent, ça donne à la République les racines que les conservateurs veulent lui donner. Donc c'est lui qui a inventé le produit. Mais on n'a jamais atteint le paroxysme du néo-ottomanisme que l'on connaît aujourd'hui sous l'AKP et Erdogan. C'est surtout dans les médias qu'on le voit. C'est surtout à la télé et c'est surtout dans une certaine imagerie qui reprend certains thèmes plus ou moins ottomanisants. Sinon, dans l'architecture, oui, mais ça depuis longtemps. C'est-à-dire que quand on construit une mosquée à Istanbul, on la construit en béton ou en parpaing sur le modèle des mosquées dites classiques du 16e siècle. Donc depuis les années 80, on n'a pas cessé de créer du kitsch néo-ottoman en matière d'architecture. Tout ça,
ça précède
Erdogan, de beaucoup, hein.
En même temps, là, on a un bel exemple juste en face, hein, sur Çamlıca, c'est l'autre côté du Bosphore.
Alors, ce qui a changé, là, c'est le fait que c'est directement parrainé par l'État.
C'est
une mosquée immense, c'est-à-dire que dans les années 80, Ozan avait la passion des miniatures, de miniatures que par exemple, là c'est des mégatures. On prend la mosquée bleue, on la multiplie par 3, 4 et on en fait une sorte de Sacré-Cœur, parce que je trouve qu'il y a un rapport avec une certaine architecture religieuse, nationaliste, que l'on connaît bien en France à la fin du 19e siècle, genre Lourdes, genre Sacré-Cœur, Notre-Dame de la Garde, etc. Donc c'est cette utilisation d'un environnement un peu élevé, surélevé, pour y bâtir une église, ou le cas échéant une mosquée, qui a des proportions gigantesques et qui se voit de loin et qui symbolise non seulement la religion mais aussi la nation. Et puis surtout, il n'y a vraiment pas d'art. Ce qui est vraiment désolant, c'est de voir à quel point l'ottomanisme est du copier-coller, du couper-coller. On prend quelque chose que l'on assume, que l'on suppose représente une certaine période ottomane, d'ailleurs toute période confondue, parce qu'on n'a pas vraiment l'éducation qu'il faut pour les distinguer. On le copie, on le réinterprète avec les moyens du bord, le béton, etc. Et puis on appelle ça du revivalism. C'est pas le cas. Quand on pense au revivalism du 19e siècle, on a vu ça en Europe, le néo-gothique, etc., c'est quand même une certaine recherche architecturale. Le point commun, que ce soit dans l'architecture, les médias, la culture populaire, etc., c'est que ça vole très bas. Vraiment, c'est au ras des pâquerettes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la recherche, on part déjà de l'image que l'on veut produire et on la reconstruit à rebours. Par exemple, une série télévisée Payitaht Abdülhamid, la capitale Abdülhamid, j'ai jamais compris d'ailleurs ce que le titre voulait dire, c'est une sorte de documentaire dramatisé sur le règne d'Abdülhamid, donc de 1876 à 1908.
Donc, en fait, les dernières années de l'Empire ottoman, quasiment.
Quasiment, mais l'objectif est essentiellement de montrer que Abdülhamid, aujourd'hui, c'est Erdogan. Donc, on ne part pas d'Abdülhamid, on part d'Erdogan. On crée le scénario à partir de moments qui paraissent cruciaux du point de vue de la politique d'Erdogan aujourd'hui, et on transplante, transmet, transfuse tout cela dans un contexte de la fin du 19e siècle.
Ey kılıç sesleriyle Kosova'da, ey gür sesleriyle Mohaç'ta, ey tekbir sesleriyle Konstantiniyye'de arşı titreten cengaver torunları.
Du point de vue de l'historien, ça n'a pas de sens. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir qu'il y a une continuité de Hamid aux jeunes Turcs, des jeunes Turcs à Kemal, de Kemal à Atatürk, puisqu'on peut quand même diviser son règne en deux, et d'Atatürk à Menderes, et de Menderes à Özal, et de Özal à Erdogan.
Et cette continuité, c'est quoi?
C'est une tradition autoritaire, c'est l'obsession pour ce qu'on appelle la survie de l'État. Et par conséquent, l'argument que les libertés individuelles ou le droit même peuvent être mis de côté face à l'urgence de la défense de la patrie, de l'empire, de la nation, de la république. En fait, vous l'appellerez différemment, mais à chaque fois, c'est l'État. Et cet État, il se définit dans un mélange de turcité et d'islam, avec un dosage qui change.
À vous entendre, donc, l'erdoanisme, si une telle chose existe, n'est pas un néo-ottomanisme, certainement pas, en tout cas, historiquement parlant. Qu'est-ce que c'est idéologiquement?
J'appellerais plutôt ça du néo-kémalisme islamique, misant avec une sauce libérale, dans le sens économique du terme. C'est un peu ça. Seulement, le problème, c'est qu'il est en crise. L'erdoganisme est en crise du côté de sa politique économique, surtout. Donc, mais en gros, il y a beaucoup d'opportunisme. Hein. L'idéologie pure et dure en Turquie, on n'a jamais vu ça. Donc, c'est de l'autoritarisme qui s'est fait au fur et à mesure. Je n'ai pas l'impression que l'AKP est arrivé au pouvoir avec des velléités d'autoritarisme. Je crois qu'ils ont ça dans le sang parce qu'ils sont turcs, parce qu'ils font partie de la tradition politique turque, et que par conséquent, tout parti politique qui arrive à se maintenir au pouvoir assez longtemps et avec assez de force pour, en gros, conquérir l'État, le fera. Si le public turc, libéral notamment, se rendait compte de ces continuités, il y aurait une prise de conscience importante sur la nature même de la politique, la nature même des partis politiques en Turquie, qui n'ont rien de démocratique. Et ce n'est pas que l'AKP, je veux dire, le CHP est à la botte du leader. Ce sont des partis qui sont dirigés, complètement maintenus en laisse par leur leader. Donc, avec des partis qui eux-mêmes n'ont pas de tradition démocratique, il est quand même assez difficile d'établir une véritable démocratie. Halkını kurtar evet demekle, ülkeni kurtar evet demekle,
yeniden gelecek kurmak lazım, sistemi baştan yazmak lazım. Au-delà du néo-ottomanisme, souvent très kitsch en effet, la Turquie d'Erdogan, c'est aussi l'avènement de ce qu'on appelle les foyers ottomans, regroupement qui pourrait s'apparenter à une milice ou à une future milice, qui, quand ils ne promeuvent pas un rap à la gloire d'Erdogan, comme dans ce clip, entendent revisiter l'histoire et préparer l'avenir. Le président des foyers ottomans d'Istanbul, Aliti Alcen Yazıcı, a accepté de nous présenter ses foyers ottomans. Nous le retrouvons à Maltepe, de l'autre côté du Bosphore, très loin sur la rive asiatique.
C'est une association, une ONG en fait. L'ONG la plus importante de Turquie, puisqu'on a 3,5 millions de membres. Et nous promouvons une vision, comme un parti politique.
Une sorte d'association politique ?
Au départ, on n'avait pas de vision politique. Mais après la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, on s'est dit qu'on devait veiller sur notre pays, notre patrie. On a été fondé en 2009. On avait surtout des activités culturelles autour de l'histoire turque, de l'islam. Mais le cœur de nos activités, c'était de préserver l'esprit ottoman. Nous avons un conseil, un divan, dans lequel siègent des scientifiques, des historiens, et on organise des séminaires, des cours d'histoire, des conférences pour les employés des administrations, qu'ils apprennent leur propre histoire. Parce que, et c'est très important, depuis le début de la République, notre histoire a été écrite par d'autres gens, issus des puissances impérialistes occidentales. Nous, on essaie de réécrire cette histoire sous une lumière plus pro-ottomane.
Depuis la tentative de coup d'État, vous promouvez donc une vision plus politique. Alors vous êtes prêt à vous battre pour quoi ? Pour la transformation de la République en quelque chose plus proche de ce qu'il y avait avant, par exemple ?
Depuis le temps des Seljoukides, en passant par les Karaman, puis l'Empire ottoman et enfin la République, il y a une continuité de l'État. La République est une continuité de l'Empire ottoman, en fait. Mais en particulier depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, on a été très actifs. Il y avait au sein même de ces institutions républicaines des gens qui ont participé au coup d'État. Et les foyers ottomans ont été les premiers à descendre dans la rue pour arrêter ce coup d'État. Et on l'a arrêté. À partir de là, on a milité pour un système présidentiel pour le pays, parce que c'est dans la tradition administrative de l'Empire ottoman. On veut reprendre ce système.
Vous considérez-vous comme les gardiens, au sens presque physique du terme, de ce nouveau système présidentiel ?
Nous ne sommes pas une milice. Je veux le souligner. Nous ne portons pas d'armes. Nous faisons partie de ces 51% de la société qui veulent vivre sous un régime présidentiel. Les gens ont voté pour ça l'année dernière et à 51%, ils ont choisi un régime présidentiel. Nous, on est volontaires pour le préserver, mais on n'en est pas les gardiens.
Certains ont fait de Recep Tayyip Erdogan un nouveau sultan. Pour vous, est-ce qu'il cadre bien avec votre vision ?
Erdogan ? Écoutez, moi je suis de la génération 68. J'étais même communiste. Et à l'époque, le plus important pour nous, c'était la critique des puissances impérialistes. Et pour moi, aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan est un leader très important parce qu'il lutte aussi contre les puissances impérialistes occidentales. C'est pour ça qu'on le soutient. Il ne collabore pas avec les impérialistes. Il les combat. Et puis, on a ces 623 années d'histoire ottomane derrière nous. Et nous estimons que c'est le seul leader qui incarne la continuité de cette histoire, de cette tradition impériale. Il ne faut pas oublier qu'il a été élu et nous croyons qu'il restera notre leader jusqu'en 2023. Que Dieu lui prête vie. Et en 2023, la Turquie se lèvera.
C'est ça l'objectif.
L'objectif, c'est l'union de tous les musulmans. La Turquie est la représentante de ce monde de l'islam. Et Recep Tayyip Erdogan en est ou doit en être le leader. Il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Et la Turquie doit devenir le leader de ce monde islamique. Pour nous, les foyers ottomans, Recep Tayyip Erdogan est le seul leader. On le soutient, on le soutiendra toujours. On sera toujours derrière lui en tant que foyer ottoman. Personne n'arrivera à nous désintégrer. Avec lui, je crois que la Turquie sera encore plus forte qu'aujourd'hui. On y croit profondément.
Ces rêves de grandeur et de puissance, les membres des foyers ottomans s'engagent à y parvenir. Et quand ils prêtent leur serment, en entrant dans l'association comme ici, c'est avec la promesse d'être prêts à mourir pour leur leader. Il n'est jamais nommé explicitement, mais c'est bien d'Erdogan qu'il s'agit.
Erdogan, le retour d'un sultan. Alors l'économiste et politologue Ahmet İnsel est toujours avec nous en studio. Quel regard portez-vous, Ahmet İnsel, sur ces foyers ottomans? Est-ce qu'ils pourraient devenir des milices un peu à la façon des Basidji en Iran?
Déjà, nous avons eu dans les années 60 des milices qui sont apparues autour du parti d'extrême droite nationaliste, ce que nous appelons les loups gris, qui étaient un peu soutenus d'ailleurs à l'époque par les États-Unis pour contrer la montée de la gauche en Turquie. Aujourd'hui, les foyers ottomans sont apparus à la fin des années 2000, c'est 2009 il dit, et ce n'est pas fortuit de l'année 2009-2010. C'est l'année où Tayyip Erdogan et son équipe commencent à vaciller d'une perspective d'adhésion à l'Union européenne vers une perspective de devenir un peu le chef de file du Moyen-Orient. Mmh. Et ça s'est accéléré avec les révolutions arabes qui ont suivi tout de suite après en 2011. Et à ce moment-là, effectivement, il y a eu une montée en Turquie d'une idéologie ottomaniste que le porte-parole, l'idéologue, était le conseiller de Tayyip Erdogan pendant longtemps, le professeur de relations internationales Ahmet Davutoğlu, qui est devenu après ministre des Affaires étrangères et puis après le Premier ministre. Et qui est un peu responsable de l'engagement un peu aventureux de la Turquie dans les affaires syriennes, justement, en 2011. Alors, dans ce foyer ottoman, effectivement, est un peu le pendant dans le cadre de AKP, des loups gris du parti d'extrême droite nationaliste. Le parti AKP est un parti qui était un parti de masse, mais un parti qui mobilisait les cadres essentiellement sur les intérêts économiques, la rente, etc. À partir des années 2010-2011, ils ont eu besoin aussi d'avoir un encadrement un peu milicien pour ne pas être dépendant de l'extrême droite nationaliste. Parce que les biceps dans la rue, c'était l'extrême droite nationaliste. Et à l'époque, ils n'étaient pas ensemble. Maintenant, ils sont ensemble. Alors, donc, du coup, c'est un peu à l'image de ça, dans une sorte d'organisation de jeunesse, évidemment, avec beaucoup d'opportunisme, parce que la plupart des personnes qui dirigent cette organisation, ce sont des gens qui veulent se placer un peu dans l'ombre du pouvoir et avoir des statuts, des privilèges, des soutiens, etc. La dimension idéologique, comme disait Ethem Eldem, est strictement kitsch. Il n'y a pas une force idéologique forte, alors que les loups gris, oui. Les Lougris avaient une dimension idéologique nationaliste turque très forte. Ici, ça va entre, je dirais, c'est un porteur d'un nationalisme religieux, un peu pragmatique, de là à ce qu'ils constituent des milices. Il y a des craintes, mais nous n'avons pas encore des preuves. C'est-à-dire l'armement, descendre dans la rue, etc., etc. Il y a eu quelques cas, mais pour le moment, ça reste plus au niveau d'une posture que d'une action.
Alors, puisqu'on parle de biceps et d'armes, la police, l'armée, aujourd'hui, après les purges qui ont lieu suite au coup d'État raté de 2016, est-ce qu'elles sont complètement sous la coupe d'Erdogan ?
La police, oui. La police, il y a eu énormément de purges dans la police. La police était déjà sous contrôle d'Erdogan via son allié de la communauté Gulen. Maintenant,
son allié du tout.
Il n'est plus son allié. Il a, vous savez, les chefs mafieux, ils règlent leurs affaires par personne interposée la plupart du temps. Alors, c'est un peu le cas entre les deux. Et la police est sous contrôle. Évidemment. L'armée, nous ne savons pas. C'est devenu une grande muette. Il y a eu beaucoup de purges dans l'armée. Est-ce que l'armée est soumise totalement à Tayyip Erdogan ou est-ce que l'armée est en position défensive et devenue totalement tétanisée par les purges qui continuent encore, hein. Encore il y a quelques semaines, il y a des officiers qui ont été arrêtés. Est-ce que l'armée est un peu tétanisée? Est-ce que le chef de l'armée est vraiment, comme la presse d'opposition le dit, sous contrôle de Tayyip Erdogan? Ça donne l'air, mais ça reste encore le grand inconnu. La seule chose que nous savons, c'est que jusqu'en 2009-2010, le chef d'état-major prenait tout le temps la parole. C'était pas normal. Il était tout le temps comme un chef d'opposition. Maintenant, l'armée est devenue la grande muette, comme on dit en France. Et la police est sous le contrôle, mais encore plus grave, c'est la justice. La justice est encore plus sous contrôle, notamment la justice la plus importante pour nous, la justice pénale, la justice des problèmes familiaux, etc., ou le tribunal commercial, probablement pas, mais la justice pénale est vraiment sous contrôle du pouvoir, avec des juges qui ont été nommés. Il y a plus de 4000 juges qui ont été évincés depuis le coup d'État. Il y a à peu près 16 000 juges et procureurs aujourd'hui en Turquie, dont 8 000 ont été nommés ces dernières années par le pouvoir. Donc
il n'y a pas de contre-pouvoir.
Il n'y a pas de contre-pouvoir. Ça, c'est le grand problème pour nous.
Alors, dans un contexte comme cela...
Juste pour rebondir un petit peu là-dessus, oui. Alors, il y a un autre problème qui se passe, à la fois avec la police et la justice, c'est que les gens qui sont maintenant nommés à ces postes-là sont souvent des fidèles ou des affidés ou des très jeunes. Il y a un vrai problème de compétences, très souvent.
Pour la justice pénale, par exemple.
Pour la justice pénale, on voit qu'il y a des juges qui
ont 25 ans et qui siègent dans le tribunal pénal, l'équivalent des cours d'assises. En Turquie, il n'y a pas de cours d'assises, mais les tribunaux pénaux correctionnels. Il y a des jeunes qui ont été nommés il y a quelques années. Certaines, d'ailleurs, venant du métier d'avocat. Et qui étaient des anciens avocats du parti AKP au niveau local. Effectivement, si jamais... à l'issue des élections législatives et présidentielles de 24 juin, il y avait un changement de régime. Une des grandes difficultés, un des grands problèmes que va rencontrer le nouveau pouvoir, c'est comment on va normaliser la justice.
Alors, vous évoquez l'hypothèse d'un changement de régime, mais est-ce que vous imaginez que Erdogan accepterait, s'il perdait les élections, de partir ?
Oui.
Oui.
Oui, parce que en Turquie, y compris les électeurs d'Erdogan, même mettons de côté les quelques milliers ou millions de soutiens qu'évoque le dirigeant du foyer ottoman, l'immense majorité des électeurs en Turquie, et y compris les électeurs d'AKP, attachent énormément d'importance à la légitimité électorale, légitimité des urnes.
Et les fraudes ?
Les fraudes peuvent être organisées. Il peut y avoir à la marge des fraudes.
À la marge, vous dites.
Il peut y avoir à la marge. Jusque-là, il y a eu des fraudes à la marge. D'accord. Mais la société turque est très mobilisée aujourd'hui. Mm-hmm. Nous avons entendu tout à l'heure dans le reportage des dizaines de milliers, c'est vous qui avez annoncé des dizaines de milliers de personnes qui sont mobilisées pour contrôler les urnes. Il y aura une mobilisation sociale. Et moi, je fais confiance à une chose qui reste en Turquie, qui reste vraiment la base d'une démocratie, d'un espoir démocratique en Turquie, la société turque attache énormément d'importance à la légitimité des urnes. Et je crois que si Tayyip Erdogan perd, et s'il se maintient au pouvoir, je ne crois pas, mais s'il essaie de se maintenir au pouvoir en fraudant, nous ne serons plus la Turquie de maintenant. Ce sera autre chose.
Donc vous croyez que si jamais il essayait de s'accrocher au pouvoir, il y aurait mobilisation?
Autre chose. Nous serons autre chose. Tayyip Erdogan n'aura plus les mêmes légitimités. Nous serons dans une autre Turquie. Je n'ose pas prévoir ce qui peut se passer, mais nous ne serons plus la Turquie d'aujourd'hui. Nous ne serons dans une autre Turquie. Nous basculons dans ce cas-là dans une dictature. Ce n'est pas une dictature aujourd'hui, c'est une autocratie peut-être, c'est un autoritarisme. Nous basculerons dans une dictature. Nous basculerons peut-être dans le modèle des autocraties d'Asie centrale. Mais je pense qu'une partie importante des électeurs d'AKP ne suivront pas non plus cette aventure.
Merci beaucoup, Ahmet İnsel. Je rappelle que vous avez publié La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, aux éditions La Découverte. Et puis France Culture est partenaire du dossier qui fait la une de l'Obs cette semaine, Élection en Turquie, la menace Erdogan. C'était le magazine de la rédaction, Erdogan, le retour d'un sultan, reportage d'Éric Biegala, à la réalisation Annie Brault, Bruno Gagnère à la technique. Et vous pouvez retrouver ce magazine dans sa version multimédia sur franceculture.fr.